je n'ai jamais cru en Dieu. Quand on est une petite fille, de même qu'on essaie de pleurer à l'enterrement d'une grand-mère paternelle qu'on n'aimait pas trop, on tente d'avoir un petit peu de véhémence à l'intérieur de soi pendant la messe, les vêpres et le salut. J'ai toujours été sensible à la ritualité, aux cantiques et aux cérémonies. Cela ne m'ennuyait jamais, surtout si l'on chantait. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'on croit en Dieu ? Point d'interrogation. Élisabeth de Fontenay, ce soir notre invitée, à l'occasion d'une grande majorité de ses textes de philosophie publiés dans la collection Bouquins sous le titre « L'identité humaine ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Camille Tout dit.
J'ai tout dit, tout dit, tout dit, tout dit. J'ai terminé ma phrase, tout dit, tout dit, tout dit. J'ai tout dit, tout dit, tout dit, tout dit. C'est gravé dans le marbre, tout dit, tout dit, tout dit. Hey, tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, sœur, tout dit, tout dit. Tu veux que l'on se parle, tout dit. Oh, ma sœur, il te garde, tout dit, tout dit, tout dit. Je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, tout dit. Des oiseaux dans les arbres, tout dit, tout dit, tout dit. J'ai tout dit, tout dit, dit, tout dit, tout dit. J'ai fui à la hussarde, tout dit, tout dit, tout dit. J'ai tout dit, tout dit, dit, tout dit, tout dit. Et les rats m'ont suivi, tout dit, tout dit, tout dit. Eh, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tout dit. Tu as peur pour ma vie, tout dit. Oh, ma sœur, il te garde, tout dit, tout dit, tout dit. Je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, tout dit. De la pluie dans les arbres, tout dit, tout dit, tout dit. J'ai tout dit, tout, tout dit, dit. J'ai rompu le charme, tout dit, tout dit, tout dit. J'ai tout dit. Maintenant je vous regarde, tout dit, tout dit, tout dit. Hey, tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, sœur, tout dit, tout dit. Tu veux sécher mes larmes, tout dit. Oh, ma sœur, il te garde, tout dit, tout dit, tout dit. Je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, tout dit. Du vent dans les arbres, tout dit, tout dit, tout dit. Hey, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tout dit. Tu donnes un jour ton cœur, tout dit. Oh, ma sœur, prends garde, tout dit, tout dit, tout dit. Ne, tout dit, dit, tout dit, pas, tout dit, tout, tout dit, tout dit. Où tu mourras d'ennui.
Je vais vous poser comme première question, Élisabeth, une question qui vous obsède depuis longtemps, qui est une question que nous pose Leibniz, un de vos maîtres en philosophie. Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien ?
Ah, c'est drôle parce que j'ai relu ça hier en me préparant à vous rencontrer et ça m'a semblé lumineux. Ça vous semble lumineux aussi, Laure ?
Ben oui, mais je ne sais pas répondre, tandis que vous, vous savez répondre.
Parce que ce n'est pas la question de Dieu qui est le mystère, c'est la question de l'être. Ce n'est pas la question du créateur. Ce n'est pas non plus la question de la création. C'est la question de pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire comme commentaire à ça ? Il n'y a rien, il n'y a rien à dire. Mais c'est génial et ça dispense de croire en Dieu. C'est ça la vraie question.
Enfin justement, vous ne répondez pas à cette question de la croyance en Dieu à l'intérieur de ce livre.
Ah si, la vraie question c'est pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien ?
Il y a quelque chose, on est d'accord.
Oui, mais c'est ça la question, il y a quelque chose. Mais quoi ?
Quelque chose qui n'est pas rien.
Oui, mais est-ce que c'est la question de Dieu ça ?
C'est la question de l'origine de la création.
Non. Non, C'est la question de l'être. Alors, je sais pas très bien ce que c'est que la question de l'être, je vous avoue, mais je ne peux pas dire ça autrement que dans la citation de Leibniz, qui est géniale et qui dispense de croire en Dieu.
Mais c'est une liberté de ne pas croire?
Ah oui, oui, bien sûr.
Pour vous, ça a été un cheminement?
Non.
Non? Vous n'avez jamais cru en Dieu?
Non, j'ai été élevée de façon très catholique par des femmes extraordinaires qui m'ont transmis mon amour de la littérature et de la pensée, mais je n'ai jamais cru en Dieu, je n'ai jamais prié.
Même quand vous étiez une petite fille?
Non.
Vous aimiez beaucoup les rituels, les chants, l'atmosphère?
Et ça a duré, parce que j'ai adoré aller dans les abbayes bénédictines, à Solesmes en particulier.
Vous avez fait des retraites?
Oh, bien sûr, bien sûr. Pas à Solesmes, mais j'allais à l'Office des Ténèbres à Solesmes. Non, j'ai fait des retraites de petites filles ou de jeunes filles. Mais bien sûr, je connais tout ça par cœur.
Et vous n'avez jamais songé à être bonne sœur?
Ah non, jamais. C'est drôle que vous me demandez. Jamais.
Alors pourquoi vous partiez en retraite? Pour vous couper du monde et pour réfléchir?
Je faisais des retraites sur mon lieu de travail.
Et pourquoi?
Parce qu'on m'obligeait à faire des retraites. Toute la classe faisait la retraite. Ça n'avait rien d'un choix personnel.
Et Dieu n'existait pas. Mais ça, c'était bien avant de faire de la philosophie et de l'enseigner, et bien avant de lire Friedrich Nietzsche.
Je pense, mais c'est une hypothèse, que je tiens ça de ma mère. Vous savez, alors que ma mère était juive.
Oui, mais elle a mis du temps à vous le dire. Hein.
Ça, c'est une toute autre question. Mais ma mère était profondément athée, je crois. Un de mes plus beaux souvenirs, c'est quand je préparais l'agrégation, l'oral d'agrégation, je lui avais demandé de me lire la traduction du texte latin de Spinoza que j'avais au programme. Et elle s'extasiait, elle ne connaissait pas évidemment, elle s'extasiait devant le texte de Spinoza. Or, il n'y a pas plus grand athée que Spinoza. Voilà, c'est un souvenir qui est très, très vif dans ma mémoire. Mais je crois que j'ai jamais cru à l'au-delà, voilà. À l'au-delà de Dieu, à l'au-delà de la vie après la mort, à l'au-delà de la résurrection. J'ai jamais cru à tout ça.
Il faut nous faire à notre finitude.
La finitude est encore une croyance. On se rengorge en parlant de finitude. On est fier de se sentir fini. C'est encore trop dire.
Alors ça veut dire quoi? C'est la fin, pas la finitude, la fin. La fin de l'existence, quoi. C'est tout, comme
oui,
un coup près.
C'est la fin, voilà. C'est la brièveté de la vie. C'est juste ça. Aussi bête que ça.
Donc il faut revenir à Sénèque, alors.
Oui, exactement.
Et jouir de notre brièveté de la vie.
Oui, absolument.
Et vous? Vous en jouissez de cette brièveté de la vie?
Non.
Non, non? Vous en souffrez?
Oui. Oui, j'ai peur de mourir comme tout le monde.
Ah, mais moi, je croyais que les philosophes n'avaient pas peur de mourir.
Mais je ne suis pas philosophe de ce point de vue-là.
Ah bon? Vous êtes quoi alors?
J'ai peur de mourir. J'ai envie de mourir et peur de mourir.
C'est-à-dire?
Les deux à la fois, comme Macron, en même temps.
En même temps, au même moment, et toute la journée, toutes les nuits?
J'ai peur de mourir et j'ai envie de mourir.
Et pourquoi avez-vous envie de mourir?
Parce que je trouve que ça commence à bien faire.
Qu'est-ce qui commence à bien faire?
Ma vie.
Pourquoi?
Parce que j'ai l'âge d'être morte. Même pas l'âge de mourir, l'âge d'être morte.
D'être déjà morte, peut-être?
Peut-être déjà morte. Écoutez, je voudrais vous citer une phrase du poète russe Osip Mendelstam.
Que vous citez beaucoup dans le livre.
Tenant dans mon poing serré ma date de naissance, tout usée. Et pourquoi est-ce que ce vers de Mendelstam m'a tellement marqué? Parce que je suis née en 1934, un an après la prise de pouvoir par Hitler. Or, ma vie, ma réflexion ont été marquées par cette période. Je suis née en 1934, j'étais un bébé. Mais mon père dans la résistance, ma mère juive, ça a été que toute ma vie a été une réflexion intense sur cette époque terrible.
D'autant plus qu'on ne vous a rien dit pendant toute cette période, à l'intérieur de votre cellule familiale.
Pour m'épargner, bien sûr, pour m'épargner.
Mais vous compreniez qu'il se passait des choses.
Non, j'ai pas compris à l'époque qu'il se passait des choses. J'ai pas compris que quand je n'ai plus vu ma grand-mère, mon oncle, ma tante et mes deux petits cousins, ils étaient morts à Auschwitz. J'ai pas compris ça tout de suite. Évidemment, j'avais 10 ans.
Et votre famille les a attendus jusqu'à la fin de la guerre?
Attendus, je ne sais pas. Peut-être que mes parents ont compris plus vite, assez vite. Je ne leur en veux pas de pas m'avoir parlé. Je comprends bien qu'ils ont voulu m'épargner ça. Mais c'est revenu en force par la philosophie peut-être, où j'ai fait de la philosophie à cause de ça. Vous savez, le biographique et le réflexif sont très intriqués pour moi. Le biographique, l'historique et le philosophique. Parce que le biographique, on s'en fout un petit peu. Mais le biographique, l'historique et le philosophique. Et je pense que ça a beaucoup marqué mon destin d'intellectuel et de personne vivante.
Donc, vous avez encore du temps à vivre, parce que c'est du temps pour réfléchir, d'ailleurs, en ce moment même.
C'est très gentil ce que vous dites.
Mais non, mais en ce moment même, vous êtes dans un projet intellectuel, donc...
Et puis, le fait de parler avec vous est merveilleux pour moi.
Mais donc, la solitude, vous ne la recherchez pas, ou peut-être vous la recherchez pour être en tête-à-tête avec des textes philosophiques qui vous permettent d'avancer et de nous transmettre, comme vous le faites depuis des décennies, Élisabeth de Fontenay, des pistes de propositions intellectuelles, philosophiques et aussi éthiques. Car vous êtes, pour moi, une philosophe qui nous indiquait un cheminement d'interrogation à l'intérieur de chacun de nous, pour savoir ce que ça veut dire la vie, être en vie.
Oui, oui, c'est ce que vous me dites très bien.
Ça veut dire quoi, être en vie, justement?
C'est une grosse question, parce que... Est-ce que vous pensez à ce que j'ai écrit sur les animaux? Alors, être en vie, il y a une différence entre être en vie et exister. Les animaux n'existent pas.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la perception de leur propre existence.
Voilà. Ils ne savent pas ce que c'est que de s'engager, que de faire une promesse, que de tenir une promesse, ils ne savent pas qu'ils vont mourir.
Mais paraît que certains animaux perçoivent qu'ils vont justement vers leur propre fin, notamment les éléphants.
Ça, je ne sais pas. Je ne connais pas bien les détails de la zoologie, mais c'est très émouvant ce que vous me dites, si c'est vrai. Mais avoir un pressentiment physique de sa fin, c'est pas la même chose que de savoir qu'on doit mourir. Mais alors, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que c'est que vivre? Et c'est là que je pense que l'extermination de ma famille à Auschwitz a contribué à me conduire à réfléchir aux animaux, à la vie animale et à la manière dont on les traitait. Puisqu'on a traité les Juifs comme des animaux, pire que des animaux. Tout ça m'a acheminé vers une réflexion sur la vie animale qui a beaucoup compté pour moi. Et si j'ai donné à ce livre, paru sur la collection Bouquins, le titre « L'identité humaine », c'est que quels que soient mes efforts dans un énorme livre sur le silence des bêtes, pour mieux traiter, pour mieux penser la vie animale, je pense qu'il y a une identité humaine. Et c'est très important de le dire aujourd'hui, où on parle que d'identité régionale...
Ethnique.
Ethnique. Ethnique.
Religieuse.
Religieuse, etc. Il y a une identité humaine, c'est sûr. Alors, il y a des...
Identité humaine, vous la définiriez comment, Élisabeth de Fontenay? Est-ce qu'elle est universelle? Est-ce qu'elle appartient à nous? Parce que nous faisons partie de l'humanité, nous tous, nous toutes.
C'est une question très, très compliquée. Parce que je pense que l'identité humaine, c'est l'historicité. C'est que nous sommes des êtres d'histoire. Alors, vous me direz qu'il y a des peuples sans histoire. Est-ce qu'ils ne sont pas humains pour autant? Non.
Ce n'est pas parce qu'ils ont une civilisation orale qu'ils n'ont pas d'histoire.
Il y a des peuples sans histoire. Ça existe. Ce sont des peuples de tradition. La tradition, c'est une accumulation d'histoire. Alors, il y a des peuples sans histoire, ils n'en sont pas moins humains. C'est une question que je me pose. Parce qu'il faudrait être sûr que ce que j'entends par humain, ça n'est pas européen. Alors,
c'est toute l'humanité, quand vous dites humain.
C'est toute l'humanité, bien sûr.
Et qu'est-ce qu'il y a d'humain en nous? Puisque justement, votre réflexion s'ancre dans un terrain philosophique et...
Je reviens à ce que je vous disais, l'historicité, le fait que nous sommes des êtres historiques. Je pense que c'est beaucoup lié au langage. Bien qu'on ait fait des exercices extraordinaires de traduction du langage animal, c'est sûr que les animaux n'ont pas de langage au même titre que nous, les hommes.
Ce qui ne les interdit pas de communiquer.
Absolument. Mais l'historicité est liée au langage, indiscutablement. Alors, le langage est aussi lié à la conservation des traditions. Vous voyez, je m'en fers un peu là, mais je tourne un peu en rond. Mais c'est tout de même ça l'idée, c'est que il n'y a pas d'histoire sans transmission. Mais la transmission, si c'est que la transmission, ça fait des peuples sans histoire, voilà.
Mais chaque humain a-t-il sa part d'humanité et son devoir d'humanité?
Parce que... Le devoir, c'est sûr. Sa part d'humanité, je ne sais pas si les horribles crimes qui se commettent aujourd'hui et qui se sont commis dans toute l'histoire, depuis toujours, font partie de l'humanité, peut-être. Alors, vous savez, ça c'est une question théologique, à mon avis. Est-ce qu'il y a un mal radical dans l'homme? Est-ce qu'il y a un péché originel qu'il faut racheter par la mort du Christ? Vous voyez, je ne veux pas rentrer dans ces considérations. Mais tout homme participe à l'humanité, mais tout homme ne se conduit pas avec humanité.
Je pense à la tragédie de la Shoah qui a traversé votre histoire personnelle et l'histoire du monde. Je pense à ces philosophes qui, après la Shoah, ont dit qu'il n'y avait plus de philosophie. Je pense à ces poètes aussi qui ont dit qu'il n'y avait plus de langage. Et vous, qu'en pensez-vous, Elisabeth de Fontenay?
Je pense qu'il faut, tenir bon dans la réflexion, dans le langage. Mais c'est une tentation de dire ce que vous dites. Tout ce que vous dites que des philosophes ont dit. Mais il y a aussi beaucoup de philosophes qui ont continué, beaucoup de philosophes juifs qui ont continué à réfléchir, à penser, à écrire après la Shoah et sur la Shoah. La question, au fond, c'est la question du sens. Moi, je suis ennemie du sens. J'ai horreur qu'on cherche le sens.
Mais je crois que c'était une des définitions essentielles de la philosophie, la recherche du sens.
Non.
Pas
non,
pour vous.
Non, non. Non, non, ça c'est la philosophie spiritualiste. Non, pour moi, non. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas la recherche du sens. Mais en même temps, renoncer à la recherche du sens, c'est suicidaire pour l'humanité, pour l'humain. Donc c'est très compliqué, là aussi. Là aussi, en même temps.
Vous aimez bien le « en même temps » ?
J'aime beaucoup, mais j'ai précédé Macron. J'ai écrit en même temps avant lui.
Ah ben peut-être c'est Emmanuel Macron qui a lu vos écrits, Elisabeth.
Je vais vous faire un aveu. J'étais professeur à Amiens.
Ah, donc vous avez connu Macron tout petit.
Il était au collège de jésuites qui jouxtait la cité scolaire où j'enseignais. Et le collège de jésuites faisait des contre-cours contre moi.
Pourquoi? Parce qu'il vous trouvait trop athée?
Oui.
Ah oui, et donc peut-être le petit Emmanuel faisait partie
je ne sais pas,
vous révéraient parce que...
Mais peut-être qu'il a...
Vous étiez un contre-modèle par rapport à son
enseignement. Ah oui, tout à fait.
Donc la philosophie, c'est penser en même temps notre finitude, en même temps la brièveté de notre vie. Essayer de vivre l'intensité de ce qui nous est donné aussi, alors.
Oui, mais attendez, en même temps, la brièveté de la vie ne s'oppose pas à la finitude. Non. Enfin, bon, c'est façon de parler. Moi, je n'aime pas les grands mots. Finitude, on se gonfle quand on parle de la finitude de l'homme. C'est ridicule.
Alors, je vais vous citer encore un gros mot pour que vous m'en donniez la définition. Si je vous dis le terme pensée, qu'est-ce que ça veut dire penser aujourd'hui, en fin 2021?
Résister. Résister à l'air du temps. D'abord à la technique. Parce que l'univers de la technique a envahi, a remplacé la pensée. Et puis résister à l'air du temps, c'est aussi politique. Essayer de résister aux modes. Par exemple, Caroline Fourest fonde un journal franc-tireur. C'est vraiment un journal de résistance.
Parce qu'on est dans une période qu'on peut appeler de résistance, selon vous, Elisabeth de Fontenay.
Pas de résistance à Macron, hein.
Mais à l'air du temps, à certaines sirènes, insistantes. Est-ce que vous l'avez déjà vécu, ce temps d'aujourd'hui, qui est extrêmement troublé par des obsessions, justement, de l'étranger, de la figure de l'étranger avec un grand E? Depuis que vous êtes vivante, vous l'avez déjà vécu?
Mais non, je l'ai vécu rétroactivement par l'histoire de ma famille maternelle. Mais c'est tout. J'étais très, très active en 68, à côté de Jacques Julliard, qui avait des fonctions. Il était maître assistant comme moi, à la Sorbonne, en histoire. Il dirigeait tous les 68 heures, pas trop écervelés, qui étaient des collègues. J'étais 68 heures dans ce sillon-là, qui était très, très convenable, qui n'empêchait pas d'aimer bien Cohn-Bendit. Mais enfin, bon, j'ai connu ça quand même, j'ai connu une époque de grande effervescence, mais pas une époque de pensée unique.
Et là, nous sommes, à votre avis, dans une époque de pensée unique.
Oui, toute une partie de nos concitoyens, ou sont fascistes, d'extrême droite, catholique, intégriste, ou zémouriens, ou bien sur des positions qu'ils disent antisionistes et que j'ai tendance à considérer comme antisémites.
Que peut faire un intellectuel, une intellectuelle, par rapport justement à ces thématiques qui deviennent assez obsédantes? Quelle est la possibilité pour le monde intellectuel de s'adresser au monde citoyen, à tout le monde? Autrefois, et vous l'avez connu, et vous avez été une des incarnations, Elisabeth de Fontenay, de ce qu'on appelait les intellectuels engagés. Celles et ceux qui allaient dans les meetings ouvriers, ou qui allaient à la sortie des usines, ou qui avaient fondé, comme par exemple Jean-Paul Sartre, la cause du peuple, qui est devenue Libération, etc., etc. Aujourd'hui, peut-être je me trompe, mais on a l'impression d'un désarmement et d'un assez grand silence des intellectuels. Qu'en pensez-vous?
Vous parlez plutôt de ma jeunesse que de moi-même, parce que je n'ai pas l'âge d'avoir été dans les usines, etc. Jean-Paul Sartre a joué un grand rôle dans mon développement. Et c'est sûr que quand on était formé par ces gens-là, et Simone de Beauvoir en fait partie, bien entendu, on est effrayé par l'air du temps, effrayé par l'extrême droite et l'extrême gauche, voilà, par les extrêmes. Et on est aussi en désaccord avec les... Enfin, pas au même titre.
Pas au même titre, c'est-à-dire?
Je ne suis pas effrayé par l'extrême gauche comme je le suis par l'extrême droite. Parce que mon itinéraire est celui-ci. C'est ma date de naissance que je tiens serrée dans mon poing. Ce n'est pas au même titre qu'on peut s'élever contre l'extrême droite et l'extrême gauche. L'extrême gauche, j'ai des complicités, ne serait-ce que l'antiracisme. Mais je n'ai pas de complicité dès qu'il s'agit d'assassinats, et surtout d'assassinats d'enfants ou de vieillards, comme c'est maintenant devenu le cas souvent. Donc, je dis bien que je ne déteste pas l'extrême gauche comme l'extrême droite, mais je dis que l'extrême gauche, quand même, mérite réflexion, attention.
Nous sommes dans un pays démocratique où la liberté d'expression est sauvegardée, elle n'est pas attaquée pour le moment, bien au contraire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une méconnaissance de certains d'entre nous qui ne nous rendons pas compte que nous sommes en démocratie?
Vous parlez des anti-vax, par exemple? Ben oui, c'est grotesque. C'est grotesque. On leur souhaite de vivre en pays fasciste, sous une dictature. Ils sont ridicules. Toutes les manifestations contre les mesures gouvernementales visant à nous protéger. Je ne suis pas macroniste, hein. Mais je voterai Macron. Voilà. Je ne suis pas macroniste pour un sou, mais c'est lui qui a raison quand même, pour le moment. il n'a pas eu raison de supprimer les corps intermédiaires, de se passer de l'Assemblée. Enfin, il se conduit de façon trop souveraine, trop monarchique. Mais c'est lui qui a raison dans toutes ces querelles ridicules qui nous envahissent.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Elisabeth de Fontenay. Pour notre plus grand bonheur, Georges Brassens, Il n'y a pas d'amour heureux.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, des armées incertains, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer. Répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux.
Ben merci pour ce choix, Elisabeth. Pourquoi ce choix?
Parce que j'adore.
C'est un peu triste, hein, il n'y a pas d'amour heureux.
Oui, mais j'adore Brassens.
Et puis c'est... Il y a des chansons plus gaies chez Brassens.
Oui, je sais bien.
Vous pensez vraiment...
Garogorie.
Ben, Garogorie, c'est pas mal. Mais il n'y a pas d'amour heureux, c'est très beau.
Mais écoutez, c'est une chanson sur la défaite de 1940.
C'est pour ça que vous l'avez choisi.
Oui. Oui, c'est une chanson très bouleversante sur la biographie la plus intime qui se mêle à l'histoire la plus drue, la plus brute. Et ça m'émeut beaucoup parce que, comme je vous le redis, moi je tiens dans mon poing. C'est ridicule quand on est devant de parler de son poing, mais enfin,
passons. Ben on a aussi des poings. Hein.
Passons. Tenons dans mon poing serré ma date de naissance, toute usée. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi. Parce que c'est une chanson patriotique de Brassens. C'est un poème patriotique d'Aragon. Et je ne crois pas que Brassens était sensible à cet aspect-là de la chose. Parce que déjà, à l'époque, parler de patrie, c'était grotesque. C'est pire aujourd'hui. Mais déjà, à l'époque, c'était chez les pacifistes, dont Brassens était, bien sûr, c'était ridicule.
Quand avez-vous été le plus heureuse dans votre existence, Elisabeth de Fontenay?
C'est une question très indiscrète, ça, alors.
Oui, mais elle peut être très philosophique aussi.
Je ne sais pas comment la prendre d'un point de vue philosophique, et je ne sais pas comment, sans compromettre des personnes, vous répondre sincèrement. Je n'ai jamais été heureuse philosophiquement.
Ah bon?
Non. Bon, non.
Pourquoi? Parce que vous étiez toujours insatisfaite, pas contente de vous?
Non, parce que la philosophie n'est jamais une source de quiétude, de joie. Non. J'ai peut-être été heureuse quand j'ai écrit le Diderot, parce que j'ai complètement fait mien cet univers rhapsodique, d'enchaînement et de déchaînement. C'était pas mon univers, mais c'est un univers que je découvrais et qui m'a beaucoup aidé à vivre. Mais c'est peut-être le seul moment philosophique dont je peux parler comme d'un moment heureux.
On peut dire que vous pratiquez la philosophie, Élisabeth de Fontenay, comme une sorte d'aventure un peu dangereuse. Et c'est ce qui fait. Oui. Ah, vous êtes d'accord là-dessus. Oui. C'est ce qui fait d'ailleurs le sel de vos écrits, parce qu'on sait que vous vous engagez.
Oui, vous venez je m'engage toujours en même temps. N'oubliez pas ça. Est-ce qu'on s'engage vraiment quand on est en même temps? Parce qu'en même temps, je me prévaut de ma généalogie juive, en même temps, je me prévaut de ma généalogie, entre guillemets, aristocratique. Les deux. Or, l'affaire Dreyfus est là pour faire une trouée dans ce en même temps. Faire une tranchée. Donc, je ne sais pas si je m'engage vraiment. Je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de moi comme d'une engagée.
Un engagement vers l'approche de la vérité.
Je ne sais pas ce que c'est que la vérité.
Ça, c'est une réponse de philosophe.
Oui.
Mais vous savez quand même ce qui est faux.
Oui, oui, bien sûr.
Si vous ne savez pas ce qu'est la vérité.
Oui, mais...
Et vous êtes quelqu'un qui avait utilisé la philosophie comme chemin d'émancipation aussi.
Oui, absolument.
Et de conquête de soi.
Tout à fait.
Vous vous souvenez du moment où vous avez décidé, je ne sais pas si le terme vous plaira, d'embrasser la philosophie?
Embrasser ne me déplaît pas, mais décider me déplaît. Je n'ai pas décidé. C'est venu comme ça. Vous savez, je suis extrêmement paresseuse. Je n'ai aucun souvenir, sauf celui de ma mère me lisant Spinoza en français pendant que je lisais en latin pour apprendre le latin, pour mieux apprendre le latin. Je n'ai pas souvenir d'avoir pris une décision et toute ma vie a été une vie un peu paresseuse, même si j'ai beaucoup écrit. Mais j'ai peut-être écrit par paresse.
Par paresse de faire quoi d'autre alors ?
Peut-être par paresse de lire. Quand je repense à ma vie, je me dis que je n'ai pas assez lu.
Mais vous lisez tout le temps ?
Oui, bien sûr, mais...
Là, on a la chance d'être chez vous. Il y a des livres partout, y compris sur un meuble où normalement il doit y avoir de la vaisselle en dessous. Mais alors, je ne sais pas comment on arrive à avoir la vaisselle parce qu'il y a, des tonnes de bouquins par-dessus.
Il y a la vaisselle? Non, je ne crois pas.
Je ne sais pas ce qu'il y a, mais enfin, il y a bien quelque chose en dessous. Mais il y a tellement de bouquins que c'est inaccessible.
Oui.
Partout, il y a des livres, partout.
Mais c'est rien à côté.
Et donc, vous n'avez pas assez lu?
Non. Parce que j'ai acheté beaucoup de livres, ça ne veut pas dire que j'ai beaucoup lu. Ça vous fait rire?
Oui.
Oui,
oui, parce que je ne crois pas que vous soyez quelqu'un qui fait semblant.
Si. je me suis définie par les livres que j'achetais, que je lisais en partie, mais en partie seulement. Et des livres que je devais avoir, que je voulais avoir, parce qu'ils renseignaient sur moi. L'intérêt que je leur portais renseignait sur moi, mais j'ai beaucoup écrit parce que c'est trop facile de dire parce que je n'ai pas assez lu, parce que c'est une manière de trouver un sens. Vous voyez comme je me contredis.
Vous trouvez plus intéressant d'écrire que de lire, et en même temps aujourd'hui vous regrettez de ne pas avoir...
C'est monstrueux, je ne prends pas ça à mon charge. Je trouve que c'est plus important de lire que d'écrire.
Mais les deux sont reliés.
Oui. Mais il y a du bavardage dans l'écriture.
Pas tellement chez vous. Vos livres sont très charpentés, vos livres écrits à l'économie.
Oui,
vos livres nous permettent d'entrer dans votre univers de réflexion et de cheminement dans votre réflexion.
Oui.
Et puis il y a aussi une autre part de votre pratique de la philosophie, Élisabeth de Fontenay, qui apparaît, si j'ose dire, en pleine lumière à l'intérieur de ce livre, qui permet d'avoir non pas la totalité de vos écrits, pourtant il est énorme ce livre, mais en tout cas une bonne partie, c'est que votre existence, finalement, s'est beaucoup passée dans le secret, et je me suis demandé des secrets qui étaient dans votre famille, dans votre histoire, Je me suis demandé si la pratique de la philosophie n'était pas pour vous, justement, l'approche de la levée du secret, la possibilité de la levée du secret.
À moitié. À moitié. C'est sûr que des choses que je n'aurais pas pu écrire si... Je vais vous dire, si mon père n'était pas mort.
Vous voulez dire qu'il a fallu attendre la mort de votre père pour essayer d'écrire sur votre histoire familiale et notamment sur votre frère?
Oui.
Donc l'écriture est un danger aussi, mais c'est oui. aussi une force de transmission vers d'autres personnes qui peut-être comme vous ou comme lui, votre frère Gaspard, sont peut-être dans des situations... Vous, vous avez le droit de prendre la parole, vous avez le droit d'écrire. En plus, on vous publie, on vous courtise pour vous publier. Mais combien de gens, finalement, vivent la même situation que vous et n'ont pas la possibilité d'en écrire?
Ça n'empêche pas que je pense que beaucoup de ce que j'ai écrit, c'est du bavardage. Je me confessais rarement parce que j'avais horreur de me confesser, mais je me confesse, là. En disant que ce que j'ai écrit, c'est un peu du bavardage.
Quand vous écrivez sur Diderot, c'est du bavardage. Quand vous écrivez Le silence des bêtes, où vous êtes la première philosophe, dans la sillée de Jacques Derrida, à parler des animaux comme des êtres appartenant à notre humanité, c'est du bavardage. C'est du défrichage, plutôt. C'est de l'audace de penser.
Oui, c'est vrai. C'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. Le livre sur mon frère, c'est du bavardage. J'ai écrit sur lui comme s'il était mort. Il est toujours vivant. Est-ce que c'est pas du bavardage que de parler d'un cas comme celui de mon frère alors qu'il est encore vivant?
Et de faire de la littérature.
De faire de la littérature. De faire de la littérature dessus. J'ai eu le prix Médicis. Le prix littéraire, c'est grotesque. Vous voyez, c'est du bavardage, ça.
Mais vous ne savez pas à quel point vos écrits, et notamment ce livre, a pu bouleverser ses lectrices et ses lecteurs et permettre des choses, une levée de silence ou une levée de souffrance pour des personnes qui vivent la même chose que votre frère, oui. qui est reclus dans une maison aujourd'hui et qui ne peut pas parler.
Oui. Et ces gens-là n'ont pas lu mon livre.
Parce qu'ils peuvent pas.
Oui. Alors, j'apparais comme un messie, comme un Christ, qui rachète, c'est ça que vous dites? Qui rachète les...
Comme une voix, VOX, qui permet aux sans-voix de pouvoir partager une souffrance qui n'est pas tellement dissible dans notre société contemporaine.
C'est vrai. C'est vrai.
Que lisez-vous en ce moment, Élisabeth de Fontenay?
Rien, parce que j'ai une période où j'ai pas de lunettes, parce qu'on me fait des nouvelles lunettes. En ce moment, rien.
Vous pouvez vivre sans lire?
Oui.
Donc vous réfléchissez toute la journée?
Oui, je ressasse.
Ben, il paraît que c'est le propre de la philosophie. Oui, Nietzsche peut-être. Disait que les vaches étaient des animaux éminemment philosophiques, parce que justement, elles... Ouais. Elle ressassait, elle rabâchait tout le temps. Elle rumine tout le temps.
Elle rumine, voilà.
Oui. Vous ruminez?
Je rumine. Merci de me trouver le mot. C'est un mot qui me flatte. Merci d'avoir trouvé ce mot.
Mais c'est un concept philosophique, hein, la rumination.
Oui.
Alors vous ruminez quoi?
Comment je vais me débarrasser de tout ça? Tout ça.
Tout ça, c'est quoi alors?
Mes tableaux, mes livres. Je rumine ça.
Mais pourquoi voulez-vous vous en débarrasser?
Parce que je vais mourir.
Bah oui, mais bon...
Je sais bien que Edgar Morin a plus de 100 ans.
100 ans et plusieurs mois.
C'est merveilleux.
C'est comme les petits-enfants, vous savez, on compte les mois après. Et vous n'avez pas envie de vieillir très très longtemps? Vous savez que les centenaires, maintenant, ils sont très nombreux en France.
C'est vrai.
Centenaires en bonne santé.
Oui, mais ça ne sera pas le cas.
Vous n'avez pas envie de vieillir?
Voilà, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est ça le problème. Je ne consens pas à vieillir.
Vous ne consentez pas à vieillir? Qu'est-ce qui résiste en vous? toutes les façons, peut-être que vous ne vieillissez pas. Est-ce que c'est, si le corps se fatigue et éprouve quelques difficultés, la tête, oui, elle fonctionne?
Oui. Vous trouvez?
Ah ben oui. J'aimerais bien être comme vous, à votre âge. Hein. Je ne suis pas la seule.
Vous posez des questions difficiles, très très difficiles, Laure. Qu'est-ce que vous me demandiez, là?
Ben, quel est le propre de l'homme? Depuis le début de l'émission, on parle de ça. Et on parle de votre pratique de la philosophie, et on parle de cette manière que vous avez de faire de la philosophie en inventant des champs philosophiques tout à fait nouveaux.
Oui.
Je sais que vous avez été très longtemps enseignante de philosophie, et je connais certains de vos élèves qui ont eu la chance d'être vos étudiants. Il paraît que vous étiez assez sévère, d'ailleurs, avec vos étudiants.
Ah bon?
Oui. Est-ce que vous n'êtes pas un peu sévère avec vous-même aujourd'hui?
Je suis certainement sévère avec moi-même, mais en même temps très lucide sur ce que j'ai été. J'étais une paresseuse foncière.
Mais c'est très bien la paresse, non?
Non, parce que je n'ai pas appris de langues étrangères. Je parle même pas anglais.
Vous parlez allemand?
Non.
L'allemand philosophique, manifestement.
Oui, un petit peu, oui, naturellement. Mais je ne parle pas l'allemand. J'aurais voulu apprendre le yiddish, qui était la langue de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Même la kinésithérapie, je n'apprends pas, je ne la fais pas. Je n'arrive pas à m'améliorer grâce à la kinésithérapie. C'est vous dire que je n'apprends rien. Je n'apprends rien.
Vous croyez que vous n'apprenez rien?
Je suis imbibée. Je suis imbibée des débats contemporains. Bon, j'ai des problèmes de mémoire en plus de mon grand âge.
Ça s'entend pas, hein?
C'est vrai.
Vous avez une idée pessimiste de vous-même? Avez-vous une idée aussi pessimiste de l'humanité?
Très pessimiste. Comment?
Avez-vous une idée aussi pessimiste de l'humanité?
Non. Non, je crois toujours que le commencement ou le recommencement est possible. Ça, c'est une idée de Benjamin que j'ai fait mienne depuis toujours. Enfin, depuis que je l'ai lu. Le pouvoir de commencer. Je ne parle pas de la technique quand je parle de ça. Je parle de quelque chose comme le contraire de la technique. Je ne crois pas au progrès, mais je crois au pouvoir de commencer. Enfin, ça veut dire quoi? Je ne crois pas au progrès. Je dis des bêtises, là. Mais je ne crois pas à une amélioration progressive de l'humanité par le savoir. Mais je crois qu'il y a Derrida a parlé à propos de Benjamin d'un messianisme sans messie. Voilà, c'est ça ma philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'attends pas de messie, mais j'ai une pensée messianique. Si vous me demandez ce que je pense de l'identité humaine, l'identité humaine est du mouvement pour aller plus loin.
Ça veut dire que vous croyez aussi au futur?
Oui, à l'avenir. Oui. Je ne pense pas, après moi, le déluge.
Vous dites le contraire. Après moi, tout sauf le déluge. Mais la possibilité de commencer et de recommencer.
Oui, oui.
Et qu'auriez-vous envie de commencer aujourd'hui?
Alors, oui, c'est très difficile de répondre à votre question, parce que est-ce que je peux vous répondre sans dire « je » Qu'est-ce que je voudrais recommencer? Commencer une autre vie, probablement. Recommencer à vivre. Renaître. J'ai intitulé un livre d'entretien avec Stéphane Bou, Acte de naissance. Je voudrais avoir un autre acte de naissance. Mais en même temps, je ne voudrais surtout pas avoir un autre acte de naissance, parce que je tiens ma date de naissance dans mon poing serré. Ma date toute usée dans mon poing serré. Je ne voudrais surtout pas être née de quelqu'un d'autre que de mon père et de ma mère. Je suis tellement fière de ma double origine. Vous savez, Alain Finkielkraut, avec qui j'ai fait un entretien qui paraît dans ce livre-là, justement, avec qui un livre qui avait un titre magnifique, « Le juif imaginaire ». Mais je suis pas une juive imaginaire, moi. Il parle de la mort à Auschwitz de son grand-père. Il n'a pas connu son grand-père. Il est né après. Moi, je les ai connus. Mes cousins, j'ai joué avec eux. J'ai connu ma grand-mère. Je les ai peu vus pendant la guerre, évidemment, parce que ma mère était prudente. Et mon père était très, très vigilant. Mais je ne suis pas du tout une juive imaginaire. Mais en même temps, j'en suis une quand même. En même temps, vous voyez, je recommence.
Ben vous voyez...
Ça m'exaspère chez Macron, ça m'exaspère parce que ça permet de s'engager nulle part.
Donc c'est quand même bien de vivre.
Ah oui, c'est formidable de vivre. J'ai jamais dit le contraire. Jamais. Ah, c'est formidable de vivre. C'est formidable.
Ça se voit dans vos yeux, hein?
C'est vrai. C'est parce que je vous regarde, là.
Et dans votre sourire aussi. Et alors, parlons de l'avenir. Dernière question. Vous travaillez sur quoi, là?
Alors, je travaille... Le livre est presque achevé, mais j'ai deux chapitres à ajouter. Je parle de mon amour, des rites, des cérémonies, des chants, de la liturgie. Et je dis que j'étais très longtemps, sans le savoir, du côté du patriarcat. Ben oui, parce qu'il n'y a que des hommes. Ce ne sont pas les bonnes sœurs qui transmettent les rites, les liturgies. Et je réfléchis à ça. Et puis il y a la littérature aussi. Bon, évidemment, les femmes étaient dans une telle position qu'elles ne pouvaient pas écrire de livres. Il y a eu des exceptions sublimes, mais rares. Mais être du côté de la littérature et la bonne littérature fait qu'on est du côté des hommes. Et je prends conscience de mon appartenance, de ma collaboration, de ma connivence avec le patriarcat. À partir de la religion, à partir de mon amour, mon absence de foi et de mon amour de la liturgie. Ce qui a l'air contradictoire, mais qui ne l'est pas.
Mais rassurez-moi, vous n'êtes pas en même temps une femme et un homme.
C'est difficile là aussi de répondre à votre question. Certainement, j'ai été élevée par mes parents comme le fils qui n'avait pas.
Ben, vous êtes une femme que nous avons la chance d'avoir avec nous, que nous pouvons lire sur... avec vous, on peut réfléchir, on peut se poser des questions. Et ce monumental ouvrage, donc paru dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, s'intitule « L'identité humaine ». Il est signé par vous, donc merci.
Il a une jolie photo. Hein.
Ah oui. Mais dans la vie, vous êtes comme ça, hein,
pareil. Oh non.
Si. Souriante, malicieuse, facétieuse. Merci beaucoup, Elisabeth de Fontenay.
Merci, Laure.
across the bars. This story then in time unfolds. This body went with words I'm told. I was at the fold and to the edge. You were at the lock, turn at the thread. I was at the flame, the root, the creed. You were at the gut, go I believe.
Et c'est avec Firefly de Pierce Faccini que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore Elisabeth de Fontenay. Je rappelle que votre livre « L'identité humaine » qui récapitule toute une partie de vos écrits vient d'être publié aux éditions Bouquin chez Robert Laffont. Merci à Juliette Medevielle et Lilian Allôme. Merci à Élodie Royer, Céline Villegas, Iris Vertanessian. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux et merci à Loïc Duros qui ce soir était à la technique. Après le prochain rendez-vous d'information, vous avez rendez-vous avec Mishka Assayas pour sa nouvelle semaine de Very Good Trip.